Bonjour David Lebars.
Bonjour.
La première table ronde du Beauvau de la sécurité va s'ouvrir aujourd'hui. Elle portera sur un sujet très sensible qui a largement alimenté les débats ces derniers mois, les relations entre les forces de l'ordre et la population. Je ne partage absolument pas l'idée d'un divorce entre la police et la population, affirme régulièrement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Est-ce que vous en êtes aussi sûr que lui ?
Oh, faut toujours faire attention aux certitudes, mais je ne crois pas non plus au divorce. Le divorce, ça veut dire une séparation. Et la police qui serait séparée de sa population, vous savez, c'est un thème qui est cher à l'extrême gauche, dont le but est de fissurer ce lien. Il faut aussi admettre ce qui ne va pas et reconnaître que depuis plusieurs années maintenant, la police a été extrêmement utilisée dans toutes les manifestations qui depuis longtemps dégénèrent. Et malheureusement, la population se pose des questions. Le lien a pu être abîmé et donc cette table ronde est très importante. D'une part, pour expliquer ce que fait la police, pourquoi elle le fait, et puis surtout pour trouver des solutions pour améliorer ce lien, ou en tout cas le renforcer à nouveau, parce que dans leur grande majorité, les Français, même si certains se posent des questions, ont besoin d'une police qui soit à leur disposition et qui réponde présent.
Et oui, au-delà du constat, au cours d'une table ronde comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est les limites de la table ronde. Je vais y participer ce matin. J'ai beaucoup d'attentes. Il va falloir qu'on discute librement, qu'on soit capable de poser un diagnostic précis. Mais j'ai déjà lu le livret qui nous est proposé. Il faut, au-delà des dispositifs, de tous les acronymes, de tous les efforts qui ont été faits, parce qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits, il faut aussi ramener les choses à des fondamentaux. Le lien police-population, c'est d'abord que les gens nous voient dans la rue. Et pour qu'ils nous voient dans la rue, il faut qu'on soit plus disponible, donc il faut poser la question de la réforme interne. Et puis je crois aussi essentiel de rénover les accueils de commissariats. On travaille dans des locaux qui sont complètement désuets et les gens ont besoin d'être à la fois bien accueillis et de se dire que quand ils sont accueillis, les choses vont avancer, notamment par exemple pour les délais de procédure.
Il y aura au total 8 tables rondes d'ici à la fin du mois de mai qui aborderont des sujets comme l'encadrement des jeunes policiers, les relations avec la justice, le maintien de l'ordre ou encore le contrôle interne. Est-ce que sur tous ces sujets, vous trouvez que ce sont des approches intéressantes, des questions qui méritaient d'être mises en débat ?
Elle le méritait d'autant plus que pour la plupart d'entre eux, ces sujets avaient déjà été abordés dans le livre blanc. Et vous savez, le livre blanc, le ministre a eu le mérite de le rendre public, mais c'était le livre blanc du précédent gouvernement. Donc le danger de cette table ronde, c'est qu'on réfléchisse à nouveau pendant 4 mois et puis qu'on revienne dans un chantier plus politique et qu'on nous dise que tout cela, finalement, fera l'objet de réflexions ultérieures. Non, je crois que maintenant, il faut tirer les conclusions des réflexions. On connaît pas mal des mots de la police, MAUX. On sait aussi que la police n'est pas responsable de tout. Les différents gouvernements précédents n'ont pas toujours pris les bonnes mesures. Il va falloir des décisions. Donc moi, ce que j'attends vraiment avec sincérité, ce sont des décisions à prendre, d'ailleurs qu'elles plaisent ou pas en interne, pour faire en sorte que cette police aborde mieux les questions de sécurité du futur.
La table ronde sur les rapports avec la justice a été ajoutée à la demande du syndicat Alliance. Est-ce que les forces de l'ordre considèrent aujourd'hui majoritairement que la justice sape leur travail ?
Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Les forces de l'ordre ont une grande difficulté à comprendre pourquoi la justice n'est pas en mesure de mettre hors d'état de nuire les délinquants qu'on passe notre temps à interpeller. Ça, c'est une réalité dans l'esprit des policiers. J'ai moi-même constaté cette réalité. Maintenant, il faut regarder le problème. La justice souffre des mêmes difficultés que nous, nonobstant des décisions qui pourraient être parfois ici ou là des décisions incompréhensibles. Mais on manque en France, et c'est une réalité, de magistrats, de greffiers, de centres éducatifs fermés, de prisons aussi. Je vous rappelle qu'on est en infraction avec les règles européennes qui consistent à incarcérer les personnes seules quand elles sont par exemple en détention provisoire. Donc tout ça, la chaîne pénale, si elle n'est pas renforcée de l'autre côté et si on ne s'intéresse qu'au sujet de police, on n'améliorera pas ce sentiment. Et ce sentiment, c'est celui des citoyens, c'est le sentiment d'impunité ou le sentiment d'injustice. Donc il faut impérativement aborder la chaîne pénale dans sa globalité.
Oui, vous parlez du manque de moyens de la justice comme à la police, au sein de la police, dites-vous. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous diriez qu'il y a peut-être chez les magistrats une forme de mansuétude excessive à l'égard des délinquants ?
Je ne me permettrai pas de porter ce jugement-là. Moi, la réalité, c'est que les policiers travaillent au quotidien avec les magistrats du parquet, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de poursuivre et d'appliquer une politique pénale. Je crois que les incompréhensions viennent plutôt vis-à-vis des magistrats du siège et qu'il y a des efforts à faire en termes de compréhension de ce que les uns et les autres vivent. Je crois qu'il faut que les magistrats viennent plus longtemps, plus souvent, de façon plus régulière dans les services de police du quotidien, voir ce que c'est d'être face à la délinquance de masse. Et inversement, il faut que les policiers soient plus associés à l'autre côté de la chaîne sur les relations avec les magistrats du siège. Mais à l'évidence, on se rend compte dans certains territoires qu'il y a une problématique qui fait qu'en bout de chaîne, pour des raisons de délai et de moyens, mais au bout de la chaîne, quand un délinquant se retrouve face à un juge du siège, il y a parfois des questions légitimes que se posent les policiers. Il n'est pas normal, si vous voulez, quand on est sur un territoire, qu'on arrête 70 fois un délinquant qui est connu 70 fois dans un fichier, le TAJ, et que ce délinquant est toujours en liberté. Alors, ce n'est pas la prison qui est la solution à tout, notamment pour les mineurs. Et il y a un moment où il y a une question de l'éloignement ou de la punition qui n'est pas efficace. Et il faut que ce sujet-là soit abordé sans tabou.
Et quand vous dites 70 fois, ça n'est pas une image, ça correspond à une réalité?
C'est une telle réalité que j'ai connu des jeunes majeurs, même certains mineurs, qui avaient atteint les 100 faits de réitération, c'est-à-dire un délinquant qui a commis plus de 100 faits avec une inscription au traitement des affaires judiciaires, des antécédents judiciaires, pardon. Donc ça, c'est une réalité du quotidien et les policiers la connaissent.
Sur le contrôle interne, David Lebar, c'est le contrôle interne de la police donc qui fera l'objet d'une des tables rondes. Il s'agit notamment donc du rôle de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Le reproche est régulièrement fait à ce service de ne pas être impartial, puisqu'au fond ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers. Est-ce qu'il faut changer ce système ?
D'abord, je rappellerai que toute structure professionnelle a une inspection ou un contrôle interne qui est fait par des professionnels. C'est valable pour les magistrats, c'est valable pour les avocats, c'est valable pour les journalistes aussi. Pourquoi ? Parce qu'un policier, une fois qu'il est du côté de l'IGPN, sait parfaitement comment travaille un policier et donc est en mesure de savoir si ou pas il a face à lui un menteur ou quelqu'un qui a fauté. Je rappelle aussi qu'on ne l'a pas dit assez souvent, l'IGPN travaille la plupart du temps sous l'autorité judiciaire. Elle fait des enquêtes judiciaires et là, c'est le parquet ou le juge d'instruction qui décide des enquêtes. Donc, il faut se pencher sur le volet administratif. Et le volet administratif, tout ce qui est sanctions disciplinaires, je ne vais pas revenir sur les chiffres parce qu'ils sont à l'honneur de l'IGPN qui n'a jamais fait preuve d'impartialité, même si certains le disent ou le prétendent. Pourquoi ne pas ouvrir, pourquoi pas, à un panel de la société civile, de professionnels qui pourraient venir constater, observer l'activité de l'IGPN? C'est ce sujet qui est sur la table. Je crois qu'il faut pouvoir l'accepter sans tabou. Mais si on accepte ce sujet-là, il faut accepter ce principe pour toutes les inspections, qu'elles soient celles de la gendarmerie, de la justice, un panel de la société civile qui observe comment ça se passe et puis on pourra faire les comptes à la fin.
Merci David Lebar. Bonne journée.